au plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour quelques lectures sensibles et mystérieuses. Au programme ce soir, de Dino Buzzati chez le médecin, une nouvelle toujours décalée. Puis quelques réflexions ufologiques de Jean-Gabriel Grézelet, un ancien commandant de bord dans une grande compagnie aérienne. Et nous commencerons par la voix magnifique de Joan Baez.
You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through.
Petite nouvelle, chez le médecin. Je suis allé chez le médecin pour la visite de contrôle semestriel. Habitude que j'ai prise depuis que j'ai passé la quarantaine. Mon médecin est un vieil ami, Carlo Trattori, et aujourd'hui il me connaît à l'endroit et à l'envers. C'est un après-midi traître et brumeux d'automne. Le soir ne va pas tarder. Dès que je suis entré, Trattori me regarde d'une certaine manière et sourit. « Mais tu as une mine magnifique, vraiment !»« On ne te reconnaîtrait plus si on se rappelait la figure tirée que tu avais il y a seulement 2 ans. » C'est vrai. Je ne me rappelle aucune période où je me sois senti aussi bien qu'en ce moment. D'habitude, on va chez le médecin parce qu'on se sent mal. Aujourd'hui, je suis venu chez le médecin parce que je me sens bien. Très bien. Et j'en éprouve une satisfaction neuve, presque vindicative, en face de trattorie qui m'a toujours connu névrosé, anxieux, affligé des principales angoisses du siècle. Maintenant, au contraire, je vais bien. Depuis quelques mois, de mieux en mieux. Et plus jamais le matin au réveil, quand la grise et funeste lumière métropolitaine filtre à travers les lames des persiennes, je n'ai formé des projets de suicide. Est-il nécessaire de t'examiner, dit Trattori. Cette fois-ci, je mangerai mon pain à l'œil, à tes frais. Mais puisque je suis venu, je me déshabille, je m'étends sur la couchette, il prend ma tension, ausculte cœur et poumons, essaie les réflexes. Il ne parle pas, je lui demande, et alors ? Trattori hausse les épaules. Il ne daigne même pas me répondre. Mais il me regarde. Il m'observe comme s'il n'avait pas su ma figure par cœur. Et finalement, dis-moi plutôt, tes manies, tes bizarreries de toujours, les cauchemars, les obsessions. Jamais connu un type aussi tourmenté que toi. Tu ne voudras quand même pas me faire croire... Je fais un geste catégorique. Place, honnête. Tu sais ce que ça veut dire? Rien. Pas même un souvenir. Comme si j'étais devenu un autre. Comme si tu étais devenu un autre, fait Trattori en écho et tout pensif. Il scande les syllabes. Le noir, dehors, s'est épaissi. Bien qu'il ne soit pas encore aux 5 heures, l'obscurité s'installe lentement. « Tu te rappelles, dis-je, quand à 1 ou 2 heures du matin je venais me défouler chez toi ? Et tu m'écoutais attentivement, même si tu tombais de sommeil. » À y repenser, j'ai honte. Quel idiot j'étais, je le comprends seulement maintenant, quel formidable idiot. Qui sait? Que veux-tu dire? Rien, plutôt réponds-moi sincèrement. Tu es plus heureux maintenant ou avant? Heureux, quel grand mot! Alors disons satisfait, content, serein. Mais certainement, je suis plus serein maintenant. Tu disais toujours qu'en famille, au travail, avec les gens, tu te sentais toujours isolé et pas à ta place. Alors? Ta belle aliénation serait-elle finie? C'est bien ça, pour la première fois, comment dire... voilà, je me sens finalement inséré dans la société. Eh bien, mon cher, compliment. Et il t'en vient un sentiment de sécurité, n'est-ce pas, de conscience tranquille? Tu te fiches de moi? Ah, pas le moins du monde. Et dis-moi, tu mènes une vie plus régulière qu'avant? Je ne saurais le dire, peut-être oui. Tu regardes la télévision? Oui, presque tous les soirs. Irma et moi ne sortons presque jamais. Tu t'intéresses au football? Tu riras si je te dis que je commence à devenir un fan. Et quelle est ton équipe? L'Inter, naturellement. Et de quel parti es-tu? Comment de quel parti? Et quel parti politique, c'est clair. Je me lève, je m'approche, je lui susurre un mot à l'oreille. Lui. Que de mystère, comme si ça ne se savait pas. Pourquoi, ça te choque? Allons donc, aujourd'hui, c'est une chose normale chez les bourgeois. Et l'auto, tu aimes conduire? Tu ne me reconnaîtrais plus. Tu sais quel escargot j'étais? Eh bien, la semaine dernière, de Rome à Milan, 4h10, chronométré. Mais peut-on savoir le pourquoi d'un tel interrogatoire? Trattori enlève ses lunettes, les coudes appuyés sur le buvard du bureau. Il joint les doigts des deux mains ouvertes. Tu veux savoir ce qui t'est arrivé? Je le regarde interdit. Sans rien me montrer, Trattori aurait-il découvert les symptômes d'une maladie horrible? Ce qui m'est arrivé? Je ne comprends pas. Tu m'as trouvé quelque chose? Oh, une chose très simple. Tu es mort. Trattori n'est pas un plaisantin, surtout dans son cabinet médical. Je balbutie. Mort? Comment cela, mort? Une maladie incurable? Pas la moindre maladie. Je n'ai pas dit que tu dois mourir. J'ai dit seulement que tu es mort. Drôle de discours. Toi-même, tu disais il y a un moment que je suis l'image de la santé. Ah, sain, oui. On ne peut plus sain. Mais mort. Tu t'es conformé, tu t'es intégré, tu t'es homogénéisé, tu t'es inséré à mes corps dans le tissu social, tu as trouvé ton équilibre, la tranquillité, la sécurité, et tu es un cadavre. Ah ben tant mieux, c'est une allégorie, une métaphore. Tu m'avais fait une de ces peurs. Pas si allégorique que ça. La mort physique est un phénomène éternel et au fond extrêmement banal. Mais il y a une autre mort, qui quelquefois est encore pire. L'abandon de la personnalité, le mimétisme par habitude, la capitulation devant le milieu, le renoncement à soi-même. Mais regarde un peu autour de toi, mais parle avec des gens. Mais ne te rends-tu pas compte qu'au moins 60% d'entre eux sont morts? Et le nombre augmente chaque année, éteint, nivelé, asservi. Ils désirent tous la même chose, ils font le même discours, ils pensent tous la même chose, exactement la même. Ignoble civilisation de masse. Ce sont des histoires. Maintenant que je n'ai plus les cauchemars d'autrefois, je me sens bien plus vivant. Bien plus vivant maintenant quand j'assiste à une belle partie de football ou quand j'écrase l'accélérateur à fond. Pauvre Enrico, et bénis tes angoisses d'autrefois. J'en ai assez. Trattoria a réussi à me porter vraiment sur les nerfs. Et alors, je suis mort? Comment expliques-tu que je n'ai jamais si bien vendu mes sculptures que ces derniers temps, si j'étais aussi ramolli que tu le dis? Pas ramolli, mort. Il y a aujourd'hui des nations entières qui ne sont faites que de morts. Des centaines de millions de cadavres. Et ils travaillent, construisent, inventent, se donnent un mal terrible, sont heureux et contents. Mais ce sont de pauvres morts. À l'exception d'une microscopique minorité qui leur fait faire ce qu'elle veut, aimer ce qu'elle veut, croire en ce qu'elle veut, comme les zombies des Antilles, les cadavres ressuscités par les sorciers et envoyés travailler au champ. Et quant à tes sculptures, c'est précisément le succès que tu as et qu'autrefois tu n'avais pas qui démontre que tu es mort. Tu t'es adapté, tu t'es mis aux mesures, tu t'es ajourné, tu t'es mis au pas, tu as coupé tes épines, tu as baissé le drapeau, tu as démissionné de ta folie, de ta révolte, de tes illusions. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu plais au grand public des morts. Je me lève d'un bond, je n'y tiens plus. Et toi alors, lui demandai-je furieux, comment se fait-il que tu ne parles pas de toi? Moi? Il secoue la tête. Moi aussi, bien sûr, mort, depuis des années. Comment résister dans une ville comme celle-ci? Cadavre, moi aussi. Il ne me restait qu'un soupirail, peut-être par scrupule professionnel, un soupirail par lequel je réussis encore à voir. Maintenant, il fait nuit, il fait vraiment nuit, et le beau brouillard industriel à la couleur du plomb. À travers les vitres, on réussit à peine à distinguer la maison d'en face. Quelle visite au médecin!
Até dia que não vou estar. ти поскрибим та скрибим, си поскисим та скисим, а те ти яки новота, солдати,
солдати, солдати, солдати, песня те на санинка, солдати, солдати. Caminho pra Santo Mê.
Saudade, 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 desce minha terra, Saninclá. Saudade, 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 desce minha terra, Saninclá. Esquecemos de esquecer até dia que não voltar. Se vou escrever, tá escrever. Se vou esquecer, de esquecer até dia que não voltar. Saudade,
saudade, saudade, saudade.
É minha terra, Saninclá.
Saudade, saudade,
saudade, é sim a terra, Saninclá.
Saudade, 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 saudade,
saudade, saudade, saudade, é sim a terra, Saninclá.
Après cette pause musicale, nous abordons maintenant nos explications et nos réflexions ufologiques. Je vous propose quelques réflexions de Jean-Gabriel Gresley dans un livre qui s'intitule « Documents interdits, la fin d'un secret », où il dresse un petit peu le bilan de ses investigations. Jean-Gabriel Gresley est un ancien pilote de chasse qui a été formé dans l'US Air Force, et il a été commandant de bord dans une grande compagnie aérienne. Ses témoignages et ses observations sont donc précieux. Il dit ceci. Le nombre de personnes acceptant qu'une présence inconnue puisse exister dans le système solaire, peut-être même sur Terre ou sous les mers, ne cesse de croître. Ce que l'on peut savoir de cette présence avec une relative certitude reste très limité. En fait, les seules observations indiscutables sont celles d'une technologie exotique qui mérite, semble-t-il, d'être qualifiée d'aérospatiale et pour partie au moins d'amphibie. Ce n'est pas rien, car cette technologie fait montre en général d'un comportement intelligent. Les exceptions, qui consistaient en des mouvements désordonnés ou erratiques plusieurs fois rapportés, n'en étaient peut-être pas, s'il s'agissait de démonstrations délibérées destinées justement à attirer l'attention. La matérialité des anges observée n'est vérifiable que dans un nombre restreint de cas où des traces sur l'environnement sont mesurables, qu'il s'agisse de résidus métalliques ou chimiques, de marques sur la végétation, de stérilisation du sol ou de blessures sur le corps de victime, animale ou humaine. Les éco-radars représentent aussi un début de preuve, à moins qu'ils ne soient simulés par des moyens électromagnétiques sophistiqués. Il suggère qu'une surface réfléchissante de dimension suffisante était présente à l'endroit de la détection. Si des observations visuelles viennent confirmer celles d'un opérateur radar, la probabilité, bien sûr, augmente. Or, il existe des catalogues entiers de détection de ce type dans l'histoire du phénomène que nous étudions. Ils comprennent des milliers d'entrées. Dans certains cas où les observations visuelles des témoins ne sont pas confirmées par une détection électromagnétique, si l'objet est complexe et de grande taille, comme à Gretz-Armainvilliers, il apparaît comme un véhicule étranger ou une image produite par des moyens dont les sciences terrestres actuelles ne disposent pas. Voilà. Matériel, virtuel, on ne sait pas trop. Si les pilotes sont très rarement vus en même temps que leurs engins, ou s'il peut s'agir parfois de mises en scène dont les scénaristes resteraient invisibles, il est cependant possible de déduire leur existence. La découverte et le survol des bases atomiques les plus secrètes des USA, amplement démontrées par de multiples documents, représentent une série d'actes délibérés, concentrés sur une période de quelques mois. L'ensemble constitue, à mon sens, la preuve qu'une intelligence coordonnait ses actes, d'autant que l'impact sur les responsables de la défense se trouve lui aussi attesté par d'autres témoignages. L'idée que les engins observés dans notre environnement pourraient utiliser notre planète comme lieu de transit ou de passage sans que les observateurs humains soient réellement concernés reste plausible. Après tout, le trafic aérien civil mondial survole journellement de multiples contrées sans avoir la moindre intention d'établir un contact avec leur population. Dans le Pacifique, pendant la Seconde Guerre mondiale, les habitants de certaines îles d'Indonésie avaient vu pour la première fois des avions de chasse appartenant à l'armée japonaise ou à l'US Air Force. Certains indigènes les ont peut-être pris pour des engins habités par des êtres surnaturels. En effet, on a découvert par endroits qu'un véritable culte était né après la guerre afin de tenter de les faire revenir. Rien de tel dans le cas de plusieurs interventions d'engins inconnus sur des bases stratégiques du nord des États-Unis. L'effet produit par l'arrivée d'un disque lumineux qui se plaça en vol stationnaire au-dessus des silos d'une base de missiles intercontinentaux Minuteman II fut considérable. Bien sûr, cela n'est pas une plaisanterie. 10 engins opérationnels destinés à frapper l'Union soviétique en cas de guerre mondiale subirent à cette occasion l'effacement complet de leur programme de navigation. Il est difficile d'imaginer qu'il pourrait s'agir d'une interaction accidentelle. Le fait que la procédure ait été répétée sur plusieurs bases stratégiques à la frontière septentrionale des États-Unis vers la fin des années 60, suggère bien des actions délibérées. Voilà, et je souligne, des actions délibérées, donc une intelligence qui est mise en œuvre. Ces événements s'inscrivaient parfaitement dans la continuité des survols des bases atomiques à partir de 1948. Les personnes raisonnablement bien informées, sans être dans le secret des dieux, c'est-à-dire qui ne sont pas titulaires de l'habilitation OVNI ou OANI, ignore en général qui sont les utilisateurs des machines volantes observées, sauf si elles sont individuellement en contact avec ces personnages. Mais au fait, ces hypothétiques extraterrestres existent-ils vraiment? Représentent-ils au moins une nécessité logique? Pas forcément dans la mesure où des automatismes intelligents, nous sommes déjà capables de construire des programmes experts, pourrait procéder à la surveillance de l'évolution naturelle d'une planète ou au suivi de civilisations émergentes en intervenant très peu et seulement à certaines étapes cruciales. Le facteur temps serait de moindre importance à condition que les automatismes soient autoréparables. Cette hypothèse, rassurante, a cependant peu de chances de correspondre à la situation présente. La variété des machines volantes observées, l'évolution des formes qui passent de l'engin lenticulaire rapide, maniable et de taille modeste en 1947, au triangle de Belgique en 1988, beaucoup plus grand et beaucoup plus lent en général, mais capable d'accélération fantastique, ne semble pas lié à un tel scénario. Une hypothèse raisonnable serait que les protagonistes dont nous postulons l'existence ne sont pas trop éloignés de nous culturellement. Peut-être sont-ils eux-mêmes passés par un stade comparable à celui que nous connaissons actuellement. Après avoir découvert l'énergie atomique, nous venons timidement d'entreprendre l'exploration de notre système solaire. Eux pourraient être en mesure d'explorer des systèmes solaires relativement proches du leur. Il n'en reste pas moins que, même dans cette hypothèse, même si leur technologie leur permet de parcourir des années-lumière dans des laps de temps raisonnables, ils doivent au minimum avoir appris à vivre en bonne harmonie. Ce critère, bien qu'hypothétique, pourrait faire partir des impératifs imposés à toute espèce souhaitant accéder au voyage interstellaire. Il est un autre impératif assez proche que nous devons au regretté amiral Pinon, auteur de « Fatima, un ovni pas comme les autres ». Il pensait que tout voyageur du cosmos devait posséder une éthique exigeante, comprenant au minimum un respect pour la vie et une forme d'abnégation faisant passer les manifestations de l'ego au second plan. Nous sommes nombreux à regretter la disparition d'un homme dont la compétence, les conceptions originales et le courage personnel auraient pu nous aider considérablement dans la compréhension du problème qui nous occupe. Nous devons pour l'instant classer dans les éléments inconnus les techniques et en amont la science, qui permettent aux engins volants observés de se sustenter en vol stationnaire, de se propulser dans le vide et de maîtriser l'inertie de leur appareil sans oublier celle de leurs passagers. Il faudrait imaginer un autre qui dispose d'un système efficace de protection de leurs appareils pendant d'éventuels déplacements à très grande vitesse. En effet, le vide interstellaire comprend suffisamment de particules par mètre cube pour que cette matière diluée se transforme en un redoutable abrasif pendant des voyages au long cours effectués à des vitesses très élevées. Tous ces problèmes ont été sans doute résolus depuis longtemps par nos visiteurs. Espérons que la direction technologique et affaires sensibles s'emploie à combler notre retard dans ces domaines. Au XIXe siècle, la probabilité d'une présence étrangère repose sur quelques articles découverts dans la presse, sur les témoignages de capitaines de navires, de météorologistes et d'astronomes, recueillis dans certaines revues spécialisées. Ces informations sont encore disponibles à la Bibliothèque nationale. Certaines anomalies lunaires observées à la surface de notre satellite et regroupées dans un catalogue de la NASA peuvent avoir été provoquées par une activité intelligente. Il est possible, en tout cas, de les attribuer à une activité volcanique disparue depuis... Il est impossible, en tout cas, de les attribuer à une activité volcanique disparue depuis des millénaires ni à des météorites frappant le sol lunaire. Certains éclairages de cratères comme Aristarque pendant la nuit lunaire subsistent pendant des heures. Une exploration de cette région était prévue par la mission Apollo 17, mais la destination de cette dernière fut modifiée sans explication. Allez savoir pourquoi. L'existence des portulans de l'amiral ottoman Piri Reis, eux-mêmes recopiés sur des parchemins beaucoup plus anciens, où l'on retrouve avec précision le tracé de certaines côtes de l'Antarctique, pourtant couvertes par les glaces depuis une dizaine de millénaires, suggère qu'à une époque préhistorique, vivaient des cartographes modernes dotés de chronomètres précis. C'est hallucinant. À moins qu'il ne se soit agi d'une hypothétique civilisation humaine avancée disposant de plateformes d'observation aérienne. Mais dans tout cela, qui sont les initiés ? Nous savons maintenant, et c'est une excellente nouvelle, que tous les responsables des différentes composantes du renseignement français sont titulaires d'une habilitation les classant d'emblée dans cette catégorie. Désormais, si l'un d'eux prétend n'être au courant de rien, vous aurez le droit de sourire d'un air entendu. Le chef de l'État, en tant que commandant suprême des armées, et le premier ministre, qui se trouvent tous deux être les destinataires du renseignement collecté par les différents services, font nécessairement partie des heureux élus. Il en va de même pour la haute autorité de la défense aérienne, responsable de la mise en œuvre du plan Intruser, ou de tout autre qui pourrait le remplacer sous un sigle différent. Finalement, dans notre pays, la direction des technologies et affaires sensibles, chargée de l'exploitation scientifique et technique du sujet, est titulaire de cette habilitation. Il est possible, du fait de ses activités, eh bien, qu'elle en sache un peu plus que les autres directions concernées. Dans un registre moins élevé, de nombreuses personnes dépourvues de toute fonction officielle peuvent légitimement se considérer comme initiées à une partie au moins de ce qu'il est permis de savoir. La simple lecture de livres et de documents appropriés, à laquelle il faudrait ajouter un minimum de réflexion personnelle, peut permettre d'accéder à cet enviable statut. D'une certaine manière, ceux qui étaient au courant de l'essentiel, c'est-à-dire de la réalité d'incursions d'engins inconnus dans notre environnement, pouvaient encore, il y a une dizaine d'années, se considérer comme des privilégiés. Ils sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux et leur nombre ne cesse de croître. Faute d'une révélation officielle, qui poserait sans doute beaucoup plus de questions qu'elle n'en résoudrait, il semble préférable de mettre à la disposition de celles et de ceux qui le souhaitent tous les éléments concrets disponibles et de leur laisser les évaluer individuellement en toute liberté. Ceux que le sujet inquiète ou rebute devraient en revanche pouvoir conserver leurs convictions rassurantes. Rien n'empêche pour autant d'imaginer ce que savent les privilégiés qui sont officiellement au courant de tout, et de se demander en quoi consiste ce « tout ». Nous avons décidé de ne pas nous livrer à ce genre de suppositions. L'Église catholique, par exemple, représente une intéressante exception dans la mesure où elle semble avoir accepté la possibilité d'une vie intelligente ailleurs que sur la terre. Des réflexions ont été menées par quelques théologiens qui envisagent sérieusement que certaines planètes habitées n'aient pas connu de péché originel. De ce fait, elles n'auraient pas eu besoin d'un rédempteur. Monseigneur Balducci avait envisagé en son temps que certaines manifestations regroupées sous le terme d'objets volants non identifiés puissent avoir une origine extraterrestre. Ces idées ont été reprises par Monseigneur Funès, directeur de l'Observatoire du Vatican. La certitude d'une présence intelligente étrangère à la Terre, et même la découverte que le cosmos est effectivement peuplé, ne devrait donc poser aucun problème particulier à l'Église romaine. Il y a quelques années, tous ceux qui s'intéressaient au dossier que nous étudions, sans y être professionnellement obligés, formaient une sorte de confrérie qui n'était pas sans rappeler celle qui existait au Moyen-Âge. À l'époque où saint Thomas d'Aquin et Roger Bacon enseignaient à la Sorbonne, les expérimentalistes étaient encore persécutés par les autorités ecclésiastiques, qui les considéraient comme des hérétiques. Ils avaient donc pris l'habitude de se réunir en secret. Bien que ne risquant plus le bûcher dans les années 50, malheur à l'astrophysicien ou au chercheur du CNRS qui aurait manifesté un intérêt quelconque pour le sujet qui nous occupe. Sa carrière s'en serait trouvée gravement compromise. Aujourd'hui, l'étau se desserre et les membres scientifiques de la commission Sigma n'ont plus à se cacher. Même le CNES semble cautionner prudemment les activités du GEPAN dans ce domaine. Une autre catégorie particulière représentée par tous ceux, et ils sont sans doute beaucoup plus nombreux qu'on ne l'imagine, qui ont eu personnellement un contact avec une manifestation inattendue, inexplicable en termes ordinaires, et qui leur semble ne pas appartenir à notre monde. Tous ceux qui ont vécu une expérience personnelle de contact avec l'imprévisible font partie d'un ensemble particulier dont on parle rarement. C'est très injuste, et les témoins souffrent d'abord de l'expérience elle-même, parfois traumatisante, ensuite d'un manque cruel d'informations sur le sujet, et finalement du mépris des ignorants quand ils osent décrire leur aventure. Quand ces témoins directs se placent eux-mêmes dans une catégorie à part, ils ont tout à fait raison. Aucune connaissance théorique, aussi poussée soit-elle, ne remplace une expérience. Cela dit, il serait plutôt rassurant pour eux de découvrir qu'ils ne sont pas seuls, que des informations objectives existent sur les causes possibles de leurs observations et que les conséquences d'un contact sont rarement désastreuses. Dans l'éventualité d'une rencontre imprévue ou d'une observation étrange, la réaction la plus saine serait, me semble-t-il, de se rapprocher d'un groupe d'ufologues comme il en existe un grand nombre dans les différentes régions de France. Certains organisent régulièrement des manifestations ou des repas ufologiques, dont les dates peuvent être facilement trouvées sur Internet. Au cours de rencontres très bien organisées, il est évidemment possible de faire la connaissance d'autres témoins et d'échanger avec eux ce qui peut l'être, émotions, inquiétudes, émerveillements, ainsi que des éléments plus concrets, où, quand, comment, etc. À défaut, la lecture de livres sur le sujet pourra, avec un peu de chance, permettre à l'intéressé d'en apprendre un peu plus. Restent les cas beaucoup plus rares d'un contact très rapproché, parfois même d'une conversation engagée avec le pilote d'un engin. Ce genre d'interaction est, paraît-il, puni par la loi aux États-Unis, mais reste parfaitement licite en Europe et en France. Les séquelles de ces expériences peuvent être fort différentes, mais dans certains cas, le témoin se croit victime soit d'un enlèvement dont il ne garde aucun souvenir précis, ou découvre qu'il souffre d'une amnésie de quelques heures. Une régression hypnotique peut représenter une solution, mais attention, rien ne garantit que les éléments retrouvés ne soient pas fictifs, inventés ou même suggérés par l'hypnotiseur s'il n'est pas un professionnel. Il existe toutefois une procédure qui ne représente aucun danger de suggestion intempestive. Elle est très simple. Après une interrogation détaillée sur la partie connue de l'incident et sa date approximative, le patient est plongé dans un état de transe profonde au cours de laquelle une seule suggestion post-hypnotique lui est donnée. Vous retrouvez progressivement au réveil, les souvenirs que vous avez pu refouler au cours de votre expérience. Il est même prudent de rajouter, vos souvenirs reviendront très progressivement, pendant une période de 24 heures. Faute de prendre cette précaution, les souvenirs cachés peuvent ressurgir très brutalement à l'instant précis du réveil et submerger littéralement le patient. Dans ce cas, ils apparaîtront à la victime comme particulièrement traumatisants, même s'ils sont objectivement anodins. Pour autant, vous n'obtiendrez aucune garantie quant à la véracité des éléments ainsi retrouvés. Dans certains cas, il semble qu'une barrière infranchissable protège et bloque une partie des informations contenues dans la mémoire. Elle reste inaccessible. Mais attendre peut-être un mot de code programmé pour réapparaître et déclencher des actes incontrôlables. Les citadins, surtout s'ils habitent dans une grande métropole bien polluée et bien éclairée la nuit, ont peu de chances d'apercevoir un jour un appareil aérien manifestant des performances inhabituelles. Quelques badauds se demanderont peut-être en apercevant un avion de ligne en phase terminale s'il ne s'agit pas d'un engin étranger à la Terre. Ce ne sera pratiquement jamais le cas. Pour les personnes habitant à la campagne dans une zone isolée, pour les observateurs professionnels se trouvant souvent la nuit à l'écart de toute agglomération importante, la probabilité de réaliser une observation inexplicable devient plus sérieuse. Elle reste néanmoins faible. Un pilote professionnel sur 10 observera, peut-être, une ou deux fois dans sa carrière, des manifestations aériennes impossibles à confondre avec des avions ou des phénomènes naturels. Il ne saura pas pour autant ce qu'il a vu et pourra généralement supposer qu'il a croisé un engin expérimental secret, d'origine bien humaine, par exemple. La probabilité de réaliser une observation vraiment exotique tombera à zéro pour les pilotes de ligne qui préfèrent éclairer fortement leur poste de pilotage en vol de nuit. Ils en ont parfaitement le droit car ils naviguent dans un environnement contrôlé, protégé par les règles de vol aux instruments. Il n'est pas nécessaire de regarder dehors, sauf dans les zones terminales quand c'est possible, pour assurer la sécurité d'un avion commercial. Dans les nuages, d'ailleurs, l'équipage de conduite dépend entièrement de ses instruments et des informations fournies par les contrôleurs au sol, et ce jusqu'au minima, qui sont très bas sur les aéroports bien équipés, de l'ordre d'une trentaine de mètres pour le plafond et 200 mètres pour la visibilité. Dans la pratique récente, les observations inédites, les plus indiscutables réalisées en vol, l'ont été de jour par plusieurs membres de l'équipage, avec une vérification radar et parfois la confirmation d'autres avions de ligne se trouvant dans la même zone. Les radars de la circulation aérienne ont très souvent perdu la possibilité de travailler en mode primaire, c'est-à-dire de détecter les avions ne possédant pas un transpondeur réglé sur un code déterminé. La confirmation de la présence ou du passage d'un engin aérien inconnu ne reste aujourd'hui certaine que pour les radars militaires. Dans un certain nombre de cas récents, les engins observés étaient tellement énormes, de forme si étrange, ou manifestaient des performances telles qu'une confusion avec un avion terrestre n'était pas possible. Il faut cependant répéter, pour ne pas effrayer les utilisateurs du transport aérien, que la fréquence de tels incidents est très faible et que les appareils inconnus évitent systématiquement les avions de ligne. En tout état de cause, les personnes qui savent quelque chose et celles qui ne savent rien forment encore des ensembles très inégaux, les premiers représentant évidemment la minorité. Une majorité importante de nos contemporains, il faut le dire, n'a jamais eu de contact avec des faits inexplicables ou, dans certains cas, n'en a gardé aucun souvenir, ce qui est autre chose. Cette faculté que possède le psychisme humain d'oublier ou même de ne pas voir ce qui le menace ou le dérange est une réalité. Elle est dûment prise en compte dans les évaluations statistiques réalisées par les services officiels. Quand l'impossible fait irruption dans nos vies, bien réglées, nous disposons de défenses psychologiques nombreuses. Elles nous aident en général à trouver une explication que nous croyons rationnelle aux événements les plus dérangeants. Que ces explications fantaisistes puissent n'être que des manifestations d'une peur devant l'inconnu est une hypothèse rarement envisagée. Devant l'inattendu, la réaction humaine spontanée consiste souvent à nier l'évidence, à rejeter la réalité apparente au profit de certitudes, de croyances ou d'affirmations irrationnelles. Dans le problème qui nous intéresse, des témoignages importants et des observations solides se sont trouvés occultés au profit de jugements définitifs, infondés. Nous connaissons tous des scientifiques modernes qui s'appuient sur des réalisations contemporaines pour décréter l'impossibilité des voyages interstellaires, de déplacements supersoniques silencieux, de l'atmosphère ou de manœuvres semblant défier les lois de l'inertie. Ils oublient toujours de préciser dans l'état actuel de nos connaissances. Dans l'état actuel de nos connaissances. Ces modèles de rigueur restent dans la lignée de ces savants du XVIIIe siècle qui niaient l'existence des météorites en se fondant sur l'affirmation ô combien profonde que s'il y avait des pierres dans le ciel, elles seraient tombées depuis longtemps. Cette attitude reste encore monnaie courante. En dépit d'une apparence raisonnable, beaucoup de prises de position reflètent surtout une inquiétude ou un malaise devant l'inconnu. Mais ça, c'est tout à fait humain. De leur côté, les autorités, les responsables de sécurité et les adeptes du statu quo ont toujours encouragé une attitude d'incrédulité, voire de dérision, concernant tout ce qui pouvait évoquer une présence inavouable. Cette auto-désinformation était moins coûteuse que l'autre et donnait de surcroît à ceux qui la pratiquaient l'impression gratifiante d'être plus intelligents que leurs contemporains trop crédules. Les exceptions à cet état de choses concernent un nombre réduit d'acteurs, d'observateurs ou de victimes. Et oui, parce qu'il y a aussi des victimes. Un élément important du bilan que nous tentons de réaliser est l'innocuité apparente des rares manifestations connues et l'absence de traumatisme chez la plupart des témoins. Cette constatation rassurante met d'autant mieux en relief un certain nombre de cas, heureusement peu nombreux, de blessures, brûlures et autres inconvénients, parfois mortels, ayant frappé des témoins trop confiants ou simplement trop proches d'un véhicule exotique posé au sol. Des témoignages très homogènes, mais de l'origine exotique n'est pas confirmée, débouchent sur des possibilités inquiétantes et doivent, avec d'évidentes réserves, trouver leur place dans toute synthèse sérieuse. Il est pratiquement certain que les mutilations de bétail, très importantes en 1972 et les années 80, font partie de notre étude dans la mesure où elles furent accompagnées d'observations d'hélicoptères noirs, apparemment militaires, mais aussi d'engins en forme de disque d'origine beaucoup plus suspecte. Prédominante dans le sud-ouest américain, ces exactions s'étendirent à d'autres régions et furent en particulier notées dans le nord des États-Unis, parfois à proximité des bases stratégiques visitées par des manifestations inexpliquées. Ces mutilations de bétail, à majorité de bovins, mais ayant touché d'autres types d'animaux, ont-elles été complétées, si l'on peut dire, par des prélèvements d'êtres humains ? Eh bien oui, la réponse à cette question effrayante n'est pas évidente, mais c'est plutôt oui. D'autres enlèvements, réels ou supposés, accompagnés de procédures médicales douloureuses, mais ne présentant aucune conséquence à long terme, sont réputés se produire aux États-Unis sur une grande échelle. À l'absence de confirmation matérielle ou de recoupement précis, ce problème particulier reste du domaine des psychologues professionnels qui aident les victimes, réelles ou supposées. Il semblerait que d'indéniables traumatismes existent. Une sorte de syndrome proche de celui ressenti par les victimes d'attentats, d'enlèvements ou de catastrophes naturelles se manifeste. D'éminents psychiatres ou médecins comme David Jacobs, John Max ou David Pritchard ont étudié le sujet qui vient d'être évoqué. Dans Rencontres rapprochées du quatrième type, ils ont noté des choses absolument fabuleuses. Mais aucune conclusion définitive ne semble pouvoir être présentée ici sur cette partie du sujet. Une littérature assez abondante existe. Elle devrait permettre à chacun de se faire une opinion personnelle. Et vous aussi, chers auditeurs, je vous engage à votre opinion personnelle. Voilà quelques réflexions de Jean-Gabriel Gressley, qui était donc commandant de bord dans une grande compagnie aérienne. Son témoignage et ses réflexions, eh bien, peuvent enrichir nos réflexions personnelles sur ces phénomènes étranges. Je vous remercie de votre écoute, vous souhaite une très bonne semaine et ça sera avec plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres histoires extraordinaires. Bye bye.
Texture like sun, lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires.